les maladies parasitaires et non par rapport à la question de la pollution de l'air. Cette étude américaine sur l'impact sur la santé humaine vient sonner une alerte puisqu'elle démontre que la pollution de l'air dans les États et les populations ne sont pas suffisamment conscients constitue un grave danger. On peut penser que la première chose à faire, ce serait de sonner l'alerte au niveau de l'Union africaine pour que tous les États se saisissent de ce dossier en même temps parce que la collaboration peut être une très bonne chose à l'échelle du continent pour prendre les mesures de santé publique afin d'y faire face. Il est important que les États soient eux-mêmes dans des dynamiques pour prendre des mesures rapides pour essayer d'infléchir les habitudes de consommation des combustibles tels que le charbon ou le bois énergie qui engendrent non seulement la déforestation mais aussi la pollution de l'air qui est meurtrière ainsi que les décès précoces très élevé aujourd'hui sur le continent.
C'était la juriste centrafricaine Antoinette Montagne. Nous savons que la ville de Goma, dans la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo, a accueilli une foire de promotion de la cuisson propre en octobre dernier. Cette initiative, conjointement menée par le Fonds d'équipement des Nations Unies et le PNUD, visait à sensibiliser le grand public sur l'importance de solutions de cuisson plus respectueuse de la santé et de l'environnement. Écoutons à présent justement à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, Déti Darba, elle est artiste activiste.
Je pense qu'en Afrique, nous avons été habitués à un mode de combustion du bois pour la cuisson de nos aliments, mais aussi pour la construction, que ce soit la construction des meubles, que ce soit des maisons, etc. Et je pense que c'est là à faciliter le changement climatique. Le changement climatique est causé aussi par la pollution de l'air et la destruction de la couche d'ozone. Alors, malgré toute la sensibilisation, il y a vraiment un sérieux besoin de changements quotidiens en menant des petites actions au quotidien et à inciter les autres à faire la même chose. Par exemple, pour la cuisson, on peut virer vers l'utilisation du gaz pour la cuisson dans la cuisine. Pour le reste, pourquoi ne pas planter un arbre dans chaque parcelle, dans chaque ménage? Ce serait quelque chose de bien, mais aussi ce serait important d'inculquer ces valeurs-là à nos enfants, ces enfants qui sont encore à l'école maternelle, qui sont encore très jeunes, leur inculquer cette habitude-là de protéger l'espace vert et avoir un monde meilleur.
C'était le point de vue de l'artiste à Goma, donc en République démocratique du Congo, Déti Darba. Alors on sait que les alternatives à la cuisson au bois énergie sont notamment divers types de foyers améliorés et de réchauds à gaz liquéfiés, le GPL. Ces technologies permettent de réduire donc la dépendance du bois de chauffe et de préserver les ressources forestières. À savoir que grâce aux efforts pour faciliter l'accès à des techniques de cuisson moins nocives pour la santé que la combustion du charbon ou du bois, la mortalité infantile liée à l'air a chuté de moitié depuis 2000, selon le rapport de l'Institut américain des effets sur la santé dont je parlais tout à l'heure. Ces résultats sont issus de la base de données des maladies mondiales. On va écouter à présent un docteur, médecin généraliste à Kinshasa, toujours en République démocratique du Congo, c'est Rebecca Yambo.
La pollution de l'air a plusieurs effets néfastes sur la santé de l'homme. Nous savons que l'air fait partie des éléments environnementaux déterminants de la santé d'un individu, au même titre que l'eau, au même titre que le sol, l'habitat, etc. Et sa pollution est à la base et la cause de certaines maladies respiratoires, certains cancers aussi du poumon. Et pour une lutte efficace de la pollution d'air, il faut premièrement une vulgarisation suffisante sur l'importance de l'air pour la santé, l'origine de la pollution d'air dans la communauté et les conséquences sanitaires, car nous savons que pour lutter efficacement, il faut que ceux qui luttent et ceux qui écoutent soient sur la même longueur d'onde. Il faut en faire une affaire de tous, pas seulement d'une certaine catégorie de personnes, car nous le savons bien que les pollutions ne sont pas que industrielles et autres, il y a aussi des pollutions domestiques par l'utilisation de ces méthodes de cuisson, par exemple certains fourneaux utilisant des pétroles, des résidus de charbon, des certaines stagnations des déchets alimentaires qu'on place au milieu de la population, et c'est là en putréfaction peuvent être à l'origine de certaines particules qui peuvent s'y échapper, et en inhalant ces particules là, cela peut causer dans le poumon certaines pathologies et voire même dans la circulation sanguine, cela peut causer un accident vasculo-cérébral. D'où l'idéal est une vulgarisation suffisante avant de trouver d'autres méthodes efficaces, car il faut en faire une affaire de tous.
Alors, dans la plupart des cas, les morts liées à la pollution aérienne sont associées à l'inhalation de particules fines, hein, PM2.5, hein, de moins de 2,5 microns de diamètre, donc. Et comme vient de le rappeler le docteur Yambo, elle favorise de nombreuses pathologies. L'index de qualité de l'air à Kinshasa, capitale de la RDC, où cohabitent quelque 14 millions d'habitants, est régulièrement dans le rouge. Alors, on fait une petite escale à présent en Afrique de l'Ouest, à Ouagadougou, pour la réaction d'un auditeur sur la pollution de l'air et autres types de pollution. Charles Bazema.
Les pays pollués, la Chine, les Amériques, les grands puissants, disons, n'ont qu'à arrêter avec leurs grosses usines. Voilà, l'Afrique ne pollue pas l'atmosphère. C'est l'Afrique même qui subit le changement climatique. Actuellement, au Burkina, nous sommes à la fin même de juin. Il n'y a pas de pluie. Nous subissons. Le Burkina ne pollue pas l'air. Et puis, je crois que les entreprises qui fabriquent les déchets, quand vous allez voir partout au Burkina Faso, il n'y a plus de stations non dégradables, voilà, qui polluent l'atmosphère. Il y a tout ça qui est là. Moi, je crois que la solution est très simple. Quand il y a eu le phénomène de Corona, nous avons vu comment les grands puissants se sont démenés. Ils ont tout fait pour gagner un vaccin en moins d'un an. S'ils veulent aussi lutter contre la pollution, je crois qu'ils peuvent aussi faire ça.
C'était Charles Bazema à Ouagadougou. Environ 2,3 milliards de personnes sur Terre utilisent des foyers de cuisson ouverts ou des poêles alimentés avec divers combustibles pour la cuisson des aliments. Les foyers traditionnels de cuisson, peu efficaces en termes de combustion car ils utilisent beaucoup plus de bois et de charbon que nécessaire, hein, précise le PNUD. On va à présent écouter, on retourne en République démocratique du Congo. Élisée Zola est pharmacienne environnementaliste.
La pollution de l'air aujourd'hui, de l'atmosphère et le trou de la couche d'ozone est un problème très préoccupant pour toute l'humanité, que ce soit le continent africain ou tous les autres d'ailleurs. Il est vrai qu'en Afrique, nous continuons encore à utiliser le charbon de bois. Il est vrai que ça fait partie des combustibles plus accessibles pour certaines populations, mais on doit vraiment pallier à ce problème tout en essayant de préserver aussi la nature, puisque le charbon de bois est obtenu par l'abattage des bois qu'on calcine après. Donc c'est vraiment un problème environnemental pour lequel il faudrait avoir des solutions au point de vue de nos gouvernements, des plateformes qui devront être mises en place pour l'éducation déjà des populations à la préservation de la nature, de la forêt et toutes ces choses, ainsi qu'à l'utilisation d'autres combustibles nécessaires pour leurs besoins familiaux. Et à côté de cela, refuser, parce qu'à l'heure actuelle, il y a encore beaucoup d'industries qui viennent se mettre sur le sol africain pour continuer à produire dans des conditions qui ne sont plus acceptées en Europe ou aux États-Unis et ailleurs dans certains pays développés. Donc refuser ce genre d'implantation sur le continent africain fera éventuellement partie de la solution pour ce problème. L'écologie est très importante, c'est un enjeu majeur pour tous les gouvernements, pour toutes les politiques qui sont mises en place économiquement parlant ou même au point gouvernemental de tous les pays d'Afrique. Donc il faudrait vraiment s'y atteler.
C'était la pharmacienne environnementaliste congolaise Élisée Zola. On reste en République démocratique du Congo. Donc pour écouter une autre congolaise, c'est Elodine Tamuzinda. Elle est membre du réseau des femmes africaines francophones pour l'atteinte des objectifs de développement durable.
Lorsque je vois les niveaux de pollution des pays développés où les usines ne font que croître et la manière dont ils se comportent, je me dis, bon, d'abord, cette solidarité mondiale n'est pas visible et n'est pas palpable, puisque les pays qui polluent devraient quand même mettre en place des programmes sérieux susceptibles d'équilibrer l'écosystème qui est en train d'être vraiment endommagé. Et nous autres aussi, et nous n'avons pas d'usine, nous n'avons pas de société, mais nous avons nos sachets qui polluent l'environnement, les fleuves, les lacs, les rivières, même les sols, la terre en général. Lorsqu'il pleut, par exemple à Kinshasa, on ne sait pas où est-ce qu'on est, on est dans quel monde. Les dommages seraient aussi amoindris si nous étions disciplinés, si nous sachions sauvegarder jalousement. Même nous, par exemple, les bassins du Congo, c'est une manne. Les bassins du Congo, cet écosystème, peut équilibrer le réchauffement climatique. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de devenir le premier poumon, mais un premier poumon qui est malade. Le premier poumon malade avec toute cette pollution des sachets, des ordures, de l'insalubrité qui ne dit pas son nom. Et nous y marchons dessus. Malheureusement, tout ça atterrit sur nos assiettes, puisque même les poissons qui sont pollués, nous les retrouvons encore sur notre table. Avec toute la pollution que nous sommes en train d'occasionner. C'est comme ça que nous devons avoir des programmes d'abord de conscientisation, de sensibilisation, mais aussi de plaidoyer auprès des pays pollués, auprès des usines. Même lorsque je prends Kinshasa, Kingaboa, n'en parlons pas, il y a autant d'usines, mais qu'est-ce qu'ils font pour aider à répondre à cette problématique?
C'était l'activiste congolaise Elodie Ntamuzinda, membre du réseau des femmes africaines francophones pour l'atteinte des objectifs de développement durable. Je reviens sur la pollution à Kinshasa. Selon une étude de 2019 de l'Union de géophysique américaine, les PM2.5 sont les plus élevées pendant la saison sèche, juin, juillet, août, lorsqu'elles sont jusqu'à 5 fois supérieures aux directives de l'Organisation mondiale de la santé. Et les mois restants, il est tout de même 4 fois supérieur à ces directives. On retourne en Afrique de l'Ouest pour écouter la réflexion d'un Nigérien, c'est Djitou Romeo.
Et la pollution de l'air en Afrique est un véritable problème. Mais nous ne sommes pas tellement industrialisés. Je prends le cas du Niger, par exemple. On ne veut pas diminuer la bouteille de gaz pour la recharge. C'est à 2500 francs. Or, normalement, on devait mener une politique pour pouvoir rendre la recharge de gaz sur tout le 6 kg à moins de 2500, parce que nous chargeons ça à 2500. Nous avons assez de compagnies de gaz ici. Prenons la ville de Cotonou, par exemple, avec la pollution à cause des gaz d'échappement. Or, nous n'avons pas d'industrie à Cotonou. Voilà, dans les grandes villes, ce problème perdure et persiste. Nous devons chercher une solution pour pouvoir remédier à cela. Et l'Afrique est un continent qui n'aime pas chercher les solutions aux problèmes, toujours aggravés. Donc, nous devons penser à cela. C'est une politique qui a été menée par l'ex-président sortant pour pouvoir diminuer la bouteille de gaz, mais ça n'a pas marché ici au Niger. Les commerçants ont grévé et la bouteille est restée telle. La recharge à 2500. Or, on devait rendre ça moins cher pour que le foyer le plus démuni puisse s'en procurer. Or, dans le désert ici, les gens ont encore recours au bois de chauffe, ce qui complique encore la tâche au climat, ce qui n'est pas bien. Nous devons penser à remédier au problème de la pollution de l'air dans nos grandes villes, surtout nos grandes villes en Afrique, pour une meilleure santé de la population.
C'était une réflexion de Djitou Romeo qui est au Niger, hein, qui pointait du doigt le fait que voilà, tout le monde n'a pas les moyens effectivement de se procurer justement ces moyens qui pourraient faire qu'on pollue moins l'atmosphère, notamment pour faire la cuisine. Hein. On parle beaucoup du bois de chauffe. Je reviens encore sur la question de Kinshasa. Selon une étude de la Columbia University, on voit qu'il y a beaucoup d'études effectivement, hein, sur cette ville. Le confinement en 2020, en réponse à la Covid-19, a permis une diminution de 40% des PM2.5 à Kinshasa et Brazzaville. Voilà. Manuela Mbayokoum, elle est centrafricaine, on va l'écouter à présent. Elle est économiste, notamment aux États-Unis, on l'écoute.
La pollution de l'air est un défi environnemental majeur qui affecte la santé publique et les écosystèmes, tant au niveau local qu'international. Elle peut être causée par diverses sources, notamment les émissions industrielles, les véhicules à moteur et la combustion de biomasse. Pour lutter efficacement contre ce fléau, des mesures concertées et stratégiques sont nécessaires. Au niveau local, que ce soit aux États-Unis ou en République centrafricaine, des actions spécifiques peuvent être mises en œuvre. Dans le cas des États-Unis, il y a le renforcement des réglementations sur les émissions industrielles. Je fais allusion par exemple aux initiatives comme le Clean Air Act qui ont déjà montré des résultats positifs. Dans le cas de la République centrafricaine où les ressources sont limitées, des solutions adaptées seront essentielles. Par exemple, il y a l'amélioration des déchets et des campagnes de sensibilisation pour informer la population sur les dangers de la pollution et des moyens de la réduire. À l'échelle mondiale, la coopération internationale est indispensable. Des accords comme l'accord de Paris visant à réduire les émissions globales de gaz à effet de serre et aussi le partage de technologies vertes entre les pays développés et ceux en voie de développement pourront accélérer la transition vers des pratiques plus durables. De plus, la recherche et le développement dans les énergies propres doit être soutenue globalement pour trouver des solutions innovantes et efficaces.
C'était une analyse de l'économiste centrafricaine Manuela Mbayokoum, hein, qui a notamment donné des informations sur un programme américain. Voilà, tous les pays hein, ont leur programme, hein, notamment pour lutter contre la pollution. Les gouvernements des pays d'Afrique, d'ailleurs, ont inclus l'énergie domestique ou de la cuisson propre dans leur engagement climatique au titre de l'accord de Paris. Hein. Plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest ont inclus des objectifs liés à l'énergie de cuisson dans leur contribution déterminée au niveau national avec l'appui du PNUD hein, dans le cadre de son initiative Promesses climatiques. On va à présent au Tchad écouter une autre juriste, c'est Thérèse Mekombé.
Des mesures ont été prises dans certains pays interdisant la coupe du bois pour en faire du charbon, mais cette interdiction elle reste quelquefois au niveau central. Parce qu'au niveau rural, beaucoup de populations ne connaissent même pas l'existence de ces mesures qui sont prises. Sauf que si, en coupant le bois pour le transformer en charbon, les agents des eaux et forêts les retrouvent. À ce moment-là, on les prend, on leur fixe des amendes qu'ils paient et la vie continue de plus belle. Et moi, je pense qu'il faut beaucoup plus de sensibilisation dans nos pays. Au-delà des lois qu'on comprend, il faut beaucoup plus de conscientisation de nos populations, surtout rurales, qui n'ont pas d'autre alternative que le bois de chauffe. Et donc, réfléchir à cela, les sensibiliser. Et la réflexion est déjà menée dans beaucoup de pays. Il y a des énergies de substitution qui sont utilisées. Mais là aussi, c'est un problème de culture, d'éducation, qu'il faut à ces populations-là pour qu'ils comprennent l'importance de la protection, non seulement de l'environnement, mais de la protection de nos enfants et de nos populations, que ce soit des gouvernants, que ce soit de la population, que ce soit des organisations qui luttent contre la pollution de l'atmosphère. Tout ce monde-là, mis ensemble, pourront contribuer à trouver des solutions à l'utilisation du bois de chauffe. Donc, moi, je pense qu'il faudrait une synergie d'action. Et en plus des mesures de sanctions qu'on doit prendre à l'endroit de ceux qui continueraient à couper du bois pour en faire du charbon, que des études soient menées dans nos pays également et dans certaines recherches également, les composts, les feuilles mortes, les bois morts qui sont là peuvent également être produits pour aider la population à l'utiliser comme énergie de cuisson au lieu d'aller couper du bois.
C'était une analyse et des suggestions de la juriste tchadienne Thérèse Mekombé. Nous avons en ligne en République démocratique du Congo un auditeur de VOA Afrique, c'est Alpha Wambuyu. Alpha, comment allez-vous? Est-ce que Alpha m'entend? Est-ce que vous m'entendez, Alpha? Visiblement, non, il ne m'entend pas. Alors, ce n'est pas grave, on va écouter à présent une journaliste camerounaise, c'est Evelyne Menge Akung.
Prendre la question par l'utilisation du bois de chauffe, etc., pour les utilisations domestiques, me semble être un raccourci quand même, parce que cette seule utilisation du bois de chauffe ne pouvait pas, elle seule, être la cause de la pollution de l'air. Ce sont les exploitations de masse de la forêt et notamment de la mangrove, ce couvert végétal spécifique pour les zones maritimes, qui est venu accentuer cette pollution de l'air. L'une des solutions est dans l'éducation de masse. Cela a commencé grâce à l'action efficace des ONG dans la plupart des pays. Mais à cette éducation de masse vient s'ajouter également des solutions alternatives. Il faut des solutions alternatives pour la ménagère, pour faire à manger, bref, pour les usages domestiques courants dans une maison. Donc il y a un développement de solutions alternatives avec des foyers améliorés qui sont fabriqués, vendus, proposés à des prix encourageants pour permettre aux ménagères de faire ce switch-là, surtout en zone rurale et en zone rurale sahélienne où le bois se fait de plus en plus rare. Mais c'est une question globale, il me semble, qui ne peut pas être abordée simplement sous le prisme de la petite ménagère qui, vous le savez bien, se trouve en bout de chaîne. Et il faudrait une action d'envergure à l'échelle nationale, à l'échelle continentale même, pour pouvoir protéger de manière générale l'environnement et surtout le couvert forestier. L'Afrique a perdu ces 10 dernières années environ 15% de son couvert végétal. Ce bois, il n'est pas transformé localement, à peine 2%, mais il est surtout exporté à l'état brut vers les pays étrangers, notamment occidentaux. C'est une réalité qu'il faut combattre.
On écoute Evelyne Meng Akung, qui est journaliste camerounaise. Tout de suite, on retourne à Goma, en République démocratique du Congo, pour la réflexion de Hortense Kavuo Maliro, activiste et politicienne.
Pour moi, je dois me poser la question de savoir quels sont les mécanismes que nos pays respectifs font pour pouvoir substituer l'usage du charbon et les bois de chauffage. Et la population est misérable. Il n'y a pas d'électricité pouvant aider à toutes ces familles-là à accéder à l'électricité. Et pour les gaz, combien de personnes ont accès à ces gaz? Par exemple, ici à Goma, il faut voir combien coûte un kilo de gaz. Et est-ce que toutes ces populations accèdent à ça? Donc, je pense que c'est des questions comme ça que nous devons nous poser en tant que citoyens, citoyennes ou décideurs. Quels sont les mécanismes qu'on peut mettre en place pour substituer efficacement l'usage du charbon et du bois de chauffage? Il y a aussi le véhicule. Le véhicule, il faut voir comment le véhicule pollue l'air. Vous ne pouvez pas imaginer. Et est-ce que vraiment nous serons en mesure de transcender vers une autre substitution pouvant substituer ces pollutions de l'air?
Pour terminer, on écoute tout de suite Fernandez Toyou, il est au Togo.
Il faut dire que c'est un rapport très inquiétant qui illustre bien ce que nous vivons vraiment comme tragédie aujourd'hui dans le monde. Il faut dire que la pollution de l'air n'est qu'une paire de manches des difficultés que nous avons au niveau climatique. Alors, pour juguler tout ceci, je crois qu'il faut essayer de substituer le charbon de bois par d'autres moyens de cuisson. Et aujourd'hui, il faut dire que les gens n'ont pas les moyens pour s'approprier tout ce matériel moderne. Nous devons permettre d'avoir une bonne cuisson. C'est ça aussi le problème. Donc, les populations pauvres n'ont pas d'alternative et sont obligées de continuer malheureusement par utiliser ces modes-là. La pollution de l'air aussi, et il y a aussi l'industrialisation non contrôlée qui provoque tout ceci. Donc, il va falloir que les États revoient ce point. Et l'assainissement aussi des villes, c'est très important.
Voilà, c'était pour terminer donc dans notre émission à votre avis. Fernandez Toyou, qui est à Sokodé au Togo avec vous, c'était Nathalie Barge. À la production, on avait Michel Joseph. Restez avec nous pour la suite de nos programmes sur VOA Afrique. On vous souhaite une très bonne soirée et bon courage à toutes et à tous. À très bientôt, on reste en contact.